9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, une nouvelle semaine santé avec le docteur Jean Rotman qui est mon invité. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Médecin généraliste en libéral depuis 40 ans, installé en Seine-Saint-Denis, homéopathe. Vous mordez à l'hameçon de l'homéopathie à cause d'un match de football qui a été annulé au printemps 78.
Absolument.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'étais à la faculté de Bobigny et on a eu la chance d'avoir une information sur l'homéopathie. Et quatre médecins homéopathes de renom sont venus faire une information sur l'homéopathie. Et on était un groupe d'étudiants, on était tous ensemble. Et puis on m'a dit, Jean, on t'a inscrit avec nous. Très bien, c'est quand ? C'est vendredi. Ah non, pas possible, j'ai un match de foot. Et le foot a été annulé. Donc je suis venu effectivement à cette séance d'information sur l'homéopathie. Et voilà, là, j'ai mordu à l'hameçon. Ils sont revenus plusieurs fois. Et ça m'a donné envie de m'inscrire dans une école associative dès la rentrée, où j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Et voilà, c'est parti pour une carrière qui maintenant dure depuis plus de 40 ans.
Et une rencontre qui change votre vie, celle du docteur Roland Zissou. À noter qu'aujourd'hui, vous présidez l'association qui porte son nom.
Oui, le docteur Roland Zissou est certainement un des plus grands homéopathes de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un homme qui s'est consacré entièrement à l'homéopathie. Il a fait le choix de ne pas avoir d'enfant pour être totalement disponible pour l'homéopathie. Sa femme était entièrement dévouée, non pas à l'homéopathie, mais à son homéopathe. Il a travaillé absolument, pas jour et nuit, mais presque, pour faire des livres qui sont des références extraordinaires. Il a fait des fiches d'homéopathie pour expliquer les remèdes. Il nous a expliqué ce qu'on appelle les diathèses, c'est-à-dire les constitutions, le terrain. Et nous, ses élèves, il nous a complètement donné la passion de l'homéopathie. Et il nous a surtout, c'était un professeur qui a eu une dimension affective extraordinaire. Voilà, et il nous aimait. C'était magnifique, quoi.
Alors bon, je suis devenu. En tout cas, vous lui rendez bien ce matin parce que vous parlez de lui avec beaucoup de tendresse.
Oui. Ouais. C'est devenu un ami. J'étais son bras droit. Enfin, j'étais son secrétaire, son trésorier. Et quand il a cessé de nous faire des cours, il avait 93 ans. Il y a 93 ans, il nous faisait encore des cours c'était pas des cours qui sentaient la poussière des années précédentes. Hein. Il refaisait ses cours, il réfléchissait, il reprenait ses textes et c'était toujours passionnant. Donc quand il a cessé de nous faire cours, on a décidé d'appeler l'association de formation médicale continue, l'association Roland Zissou, dont j'ai l'honneur d'être le président.
Bien, vous pouvez googler son nom, en tout cas tous ceux qui nous écoutent qui sont passionnés de médecine et de médecine naturelle. Hein. C'est par le biais de l'homéopathie que vous vous ouvrez aux thérapies naturelles. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous maîtrisez comme thérapie ?
Les oligo-éléments et la phytothérapie surtout.
D'accord. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se définir comme médecin homéopathe ? Hein ? C'est quelque chose qu'on peut mettre sur sa plaque devant son cabinet, ou qu'on peut mettre encore sur les ordonnances ou pas ?
Alors, les anciens, oui. Par contre, le Conseil de l'Ordre, il y a quelques mois, a pris la décision que les nouveaux médecins ne pourraient plus mettre sur leur plaque et sur leurs ordonnances médecin homéopathe.
Ça, c'est fini.
Ça, c'est fini.
Vous pouvez parce que vous l'étiez avant la loi.
Exactement.
Mais, d'accord. Ouais. Vous exercez depuis 40 ans et après de 70 ans, bien vous avez encore des longues journées hein, puisque vous exercez 12 heures par jour.
Exactement.
Vous voulez faire comme Roland Zissou, vous voulez prendre votre retraite à 93 ans.
Alors lui a pris sa retraite en tant que médecin libéral bien avant et je crois qu'il s'est arrêté, il avait 72, 73 ans. Pour l'instant, hors de question que je prenne ma retraite. Les patients commencent à être inquiets devant les cheveux gris que j'ai en disant « Et la retraite pour vous,
c'est quoi ?» Comment on va faire quand vous serez plus là ?
Voilà, alors je lui dis « Écoutez, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, la retraite, je commencerai à en parler quand je serai au Père Lachaise. »
Bien, alors vous jetez un pavé dans la mare dans votre dernier livre. Vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. Ça s'appelle « Contre la médecine dictatoriale ».
Le voilà, effectivement.
C'est le plaidoyer pour l'homéopathie aux éditions Impact. Vous dénoncez la mise à mort de l'homéopathie et des médecines naturelles. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'homéopathie, mais moins des médecines naturelles hein, l'année dernière avec la décision du non-remboursement de l'homéopathie. Et vous nous invitez ce matin et vous nous inviterez à partager votre colère. Ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est que vous expliquez finalement que tout ce qu'on demande à l'homéopathie, ça n'a pas de sens. Notamment, on parle beaucoup des études et des examens comparatifs. Et vous dites que finalement, si on comprend l'homéopathie et qu'on sait comment ça fonctionne, ça n'a pas de sens de faire des études en double aveugle, par exemple. Pourquoi ?
La prescription d'un médicament homéopathique nécessite une connaissance globale de la personne. Quand un patient vient me voir et me présente un de ses symptômes, son symptôme, ce n'est qu'une pièce de puzzle que je dois reconstituer dans un puzzle le plus complet. Et une fois que j'ai la connaissance globale de ce puzzle, je peux retourner aux symptômes avec le médicament adapté à son terrain, à sa constitution.
Donc, ce qu'il faut expliquer, donc, ça veut dire que pour une même maladie, on va dire que vous avez 5 personnes qui viennent vous voir avec une angine.
C'est exactement ça. Je peux avoir 5 traitements différents. Complètement différents.
Parce que?
Pourquoi? Parce que l'angine, elle peut avoir commencé du côté droit ou du côté gauche. Elle vient après un froid sec, après un froid humide. Elle vient parce que les gens ont eu les pieds mouillés ou la tête mouillée. Elle est améliorée en buvant chaud, en buvant froid. À chaque fois, le médicament homéopathique va changer. Donc, voyez bien que pour étudier un médicament homéopathique, il faudrait que tous les échantillons de gens représentatifs pour faire une expérimentation aient tous les mêmes symptômes du même remède. Je pense qu'on a plus de chances de gagner au loto. Hein.
Mmh. Alors c'est pour ça que finalement les arguments hein, que vous avancent, les détracteurs, que ces fameuses études en double aveugle n'ont jamais montré l'efficacité de l'homéopathie, ça s'explique par le fait que de toute façon, pour un même symptôme, on ne donne pas toujours le même traitement.
Exactement.
Et que pour vous, la méthodologie n'est pas la bonne pour prouver l'efficacité de l'homéopathie.
Exactement. Si on parle des angines, si effectivement on décide de tester, pardonnez-moi, un médicament pour les angines, si les gens n'ont pas les symptômes qui correspondent à ce médicament, effectivement, le traitement sera absolument inefficace.
Vous expliquez que depuis 40 ans, vous soignez les angines grâce à l'homéopathie et que vous avez des résultats super.
Ah, complètement.
Et
hein.
Très rapide, contrairement peut-être à l'allopathie.
Mais effectivement, je plaisante souvent, je dis ben, c'est 48 heures chrono. Hein.
Pour une angine.
Pour une angine, oui. Les otites, c'est très rapide. Les rhinopharyngites, bon, des fois ça traîne un peu. Les toux bronchiques chez les enfants, ça peut un peu traîner aussi. Mais c'est vraiment très spectaculaire. C'est très spectaculaire. Et surtout, ça ne revient pas. Les gens ne récidivent pas. Parce que quand les gens prennent des antibiotiques, ça déstabilise la flore intestinale. Il va y avoir des souches résistantes qui vont régner en maître dans une flore qui est appauvrie. Et ces souches résistantes ont une capacité migratoire dans l'organisme pour aller recréer une autre pathologie, voire la même. Donc, repathologie, re-antibiotique, et ainsi de suite.
C'est le cercle, alors pas vertueux pour le coup, hein, c'est le cercle vicieux.
Oui.
Un autre argument qu'on vous avance, hein, les détracteurs, c'est qu'il n'y a plus rien dans les hautes dilutions. Et là, vous dites, on peut avoir chimiquement raison et physiquement tort.
Oui.
Alors, ça, c'est le principe de l'homéopathie, on procède de très hautes dilutions.
C'est ça. Quand vous voyez à côté du nom d'un médicament, le terme CH, ça veut dire centésimale hahnemannienne. Hahnemann étant le fondateur de l'homéopathie, la première CH, c'est une dilution au centième. C'est-à-dire que vous avez une particule de produit actif et vous avez 99% de, enfin, particules de solvant. Ça, c'est la première centésimale homéopathique, première CH. Et la deuxième est une dilution au centième à partir de la première. Et ainsi de suite, et on va jusqu'à 30 CH. En France, on peut aller jusqu'à 30 CH. En Angleterre, on peut aller jusqu'à 100, 200, voire 500 CH, me semble-t-il. 200 sûr, 500, j'en suis pas sûr.
Donc les détracteurs vous disent, plus c'est dilué, moins ça marche.
Voilà.
C'est ce qu'on vous dit. On dit, c'est tellement dilué que finalement, le principe actif, ben voilà, il agit plus.
Effectivement, probablement que au-delà de la 9 ou de la 12 CH, on ne trouve plus rien. C'est vrai. Donc, chimiquement, peut-être qu'ils ont raison. Maintenant, physiquement, il se passe des choses qui sont vraiment passionnantes et de l'ordre de la physique quantique. Il y a un médecin absolument, un chercheur extraordinaire qui s'appelle Jean-Louis Demangea, qui est à l'hôpital de Haguenau en Alsace, et qui a étudié la structure de l'eau avec les hautes dilutions homéopathiques et qui s'est aperçu qu'il y avait des nanostructures qui étaient porteurs de substances, particulièrement avec de la silice. Et plus on monte la dilution, et plus il y a de nanostructures dans ces hautes dilutions.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour tous ceux qui nous écoutent ?
Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans les dilutions homéopathiques. Ça ne veut en aucun cas exprimer le fait que ça fonctionne dans le corps. Ça n'explique pas le fonctionnement de l'homéopathie dans le corps humain. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien. Comme je l'explique aussi dans le livre, la substance de référence, le solvant, c'est l'eau. Bon. On ne connaît pas le fonctionnement de l'eau qui fait partie de 75% de notre corps. Nous sommes faits de 75% d'eau. On ne sait pas comment fonctionne l'eau, quelles sont les énergies qu'il peut y avoir dans l'eau. On connaît tous la formule de l'eau, H2O. Ce sont des liaisons oxygène-hydrogène qui se font et qui se défont sans cesse, qui déclenchent une énergie, un mouvement cinétique, mais on n'en sait pas plus. Personne n'a étudié le fonctionnement de l'eau.
Ce que vous nous expliquez, c'est que finalement l'homéopathie révèle une vraie nature quantique et que c'est de là que vient son extraordinaire efficacité, c'est ça ?
Alors ça, c'est le professeur Marc-Henri.
Un autre.
Oui, qui explique ça. C'est vraiment de la physique de très très haut niveau. Hein.
Vous savez que tout ce qui est quantique en ce moment, c'est à la mode. Hein. Vous pouvez
aller... Oui, bien sûr, mais c'est l'avenir, effectivement. Ouais.
Il y a un autre pharmacien génial qui s'appelle Albert-Claude Kemoun, qui lui aussi a réalisé des travaux sur l'homéopathie. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui ?
Alors, Albert-Claude Kemoun a bloqué des récepteurs du cerveau, qu'on appelle des récepteurs muscariniques, et ces récepteurs de cerveau ont été, se sont mis à refonctionner grâce à l'homéopathie, grâce à ce qu'on appelle les solanacées, c'est-à-dire la belladone ou la jusquiam. Il a, avec des dilutions de belladone, il a débloqué ses récepteurs du cerveau et ses travaux ont été reconnus par l'Académie des sciences et de mathématiques, point de suspension, de Russie.
Belladone, pour tout le monde, c'est ?
La belladone, c'est une substance végétale qui est c'est un remède qui est extrêmement prescrit quotidiennement. C'est un remède qu'on utilise dans les inflammations. On parlait des angines tout à l'heure. C'est un maître remède dans les angines, effectivement.
Bon, et vous le disiez, hein, en Russie, l'homéopathie à pignon sur rue. Vous êtes notre invité, docteur Jean Rothman, ce matin. On parle de votre livre « Contre la médecine dictatoriale, plaidoyer pour l'homéopathie » chez Impact Éditions. Vous pourrez poser vos questions au professeur tout à l'heure, hein, au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Allez, mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Jean Rottmann, médecin généraliste homéopathe, et vous publiez « Contre la médecine dictatoriale, plaidoyer pour l'homéopathie » aux éditions Impact Édition. Dans votre livre, vous démontez tous les arguments qui parlent de l'inefficacité de l'homéopathie, hein, notamment, alors il y a un autre qui dit que finalement, l'homéopathie, c'est des granules et du sucre.
Oh, on a parlé aussi de chocolat, on a parlé de tas de bêtises, d'inepties effectivement dans les critiques. Hein. Vous savez, il y a un sondage que j'ai fait moi-même. 100% des gens qui critiquent l'homéopathie n'y connaissent strictement rien et n'ont jamais prescrit un granule de leur vie. Bon.
Donc vous parlez de quoi, de vos confrères?
Des confrères ou des journalistes, effectivement, qui n'ont pas manqué de tirer à boulet rouge sur l'homéopathie.
Mais sur cette question de l'inefficacité de l'homéopathie, puisqu'en fait c'est déremboursé parce qu'on ne peut pas prouver que l'homéopathie est efficace. Comment est-ce que vous démontez cet argumentaire?
Eh ben, il y a quand même, c'est une médecine qui existe depuis plus de 2 siècles. Et le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, est né en 1750. Et il y a des gens, des millions de gens qui se soignent actuellement par l'homéopathie. Il y a un sondage un sondage Ipsos, qui a montré que 74% des gens plébiscitaient l'homéopathie, il y a plus de 50% qui utilisent l'homéopathie. Alors maintenant, sur le plan de l'efficacité, les critiques viennent du fait que les gens ne peuvent pas admettre que les basses dilutions puissent être actives. On a appris aux élèves des écoles de médecine, dans les cours de pharmacologie, qu'une substance devait se situer entre un seuil maximal au-delà duquel on était toxique et entre un seuil minimal et au-delà duquel, en dessous duquel, on est absolument inefficace, il ne se passe rien. Mmh. Et entre les deux, on a une zone qui est thérapeutique. Et ben voilà, c'est faux. Les basses dilutions, effectivement, ont une action qui est vraiment extrêmement efficace. Hippocrate avait déjà découvert ça 4 siècles avant Jésus-Christ. Il s'était aperçu que la même substance, à dose pondérale et à dose infinitésimale, avait les effets inverses. Et c'est un jour Samuel Hahnemann, en traduisant les Hippocrate de grec en allemand, a été complètement interloqué par ce qu'il a lu, et a commencé à faire ses expérimentations et s'expérimenter sur lui-même ce qu'on appelle le quinquina, qui a déclenché des symptômes de paludisme. Et il s'est fait des hautes dilutions de ce quinquina, qui est devenu le remède qu'on appelle China, et il s'est guéri de ses symptômes. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, les expérimentations qu'on a pu faire n'ont pas donné la preuve d'une efficacité en fonction des critères que les allopathes recherchent, c'est-à-dire avec les expérimentations en double aveugle, vu qu'effectivement, un médicament ne peut pas être prescrit à l'aveugle. Ça n'a pas de sens.
Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, quelle est la différence de prescription d'un médicament en allopathie et en homéopathie? En allopathie, qu'est-ce qu'on va rechercher à faire face à une pathologie ou face à un symptôme?
En allopathie, vous avez un symptôme et on va être contre, c'est-à-dire qu'on est anti-tout. Il y a peu de démarches intellectuelles, il y a peu de réflexion. Il y a une hypertension, on donne un anti-tenseur. Il y a une douleur, on donne un antalgique. Il y a une dépression, on donne un antidépresseur. Il y a une diarrhée, on donne un anti-diarrhéique, etc., etc. Donc le
ça c'est donc le fonctionnement, le principe de fonctionnement de l'allopathie.
Ben, tout à fait, oui.
On va combattre donc le symptôme, c'est ça.
Oui, oui, oui. Mmh. On combat uniquement le symptôme. L'homéopathie est différente. On ne soigne pas une maladie. On soigne un malade. C'est-à-dire que on va prendre l'ensemble des symptômes de ce patient, ses antécédents personnels, ses antécédents familiaux, et en connaissance d'un maximum d'informations, on va trouver le ou les médicaments homéopathiques qui sont adaptés à ce patient.
Un des principes de l'homéopathie, c'est ce qu'on appelle le principe de similitude.
Oui.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, docteur ?
L'expérimentation d'un médicament, d'une substance, va vous donner tout un tableau de symptômes physiques et psychiques. Ce qu'on appelle un tableau d'intoxication. Si moi, médecin homéopathe, je retrouve les mêmes symptômes que ce tableau d'intoxication et que je prescris cette même substance en dilution homéopathique, les symptômes régressent. Voilà, c'est exactement le principe de l'homéopathie qui est basé sur la loi de similitude.
C'est combattre le mal par le mal.
Effectivement, on combat le mal par le mal, oui.
D'accord.
Donc c'est un peu schématisé, mais c'est une bonne...
Non, mais c'est pour voir si vous avez
oui,
mieux.
C'est
ou...
une bonne réflexion, oui. C'est...
Alors, cette fameuse interdiction de remboursement de l'homéopathie par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, vous dites que c'est une décision qui s'est fondée sur une manipulation de la haute autorité de santé. Expliquez-nous pourquoi.
Mais parce que la haute autorité de santé, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris des observations que lui ont envoyées les expérimentateurs et elle a jugé que ça fonctionnait pas, que c'était pas crédible. Et il y a une expérimentation qui était parfaitement crédible, qui était en faveur de l'homéopathie, et il y avait 45 cas qui étaient étudiés. Manque de chance, il en fallait 50. Donc elle n'a pas été retenue. Et il y a eu énormément d'expérimentations qui étaient parfaitement valables et pour des motifs qui étaient tout à fait futiles, la haute autorité de santé ne les a pas retenues. Bon. Petite anecdote, il y avait des journalistes qui, un mois voire deux mois avant, savaient déjà que la haute autorité de santé avait décidé que l'homéopathie ne serait plus remboursée. Quoi. Donc il y a eu pendant l'été 2019 toute une espèce de manipulation médiatique.
Et le feuilleton.
Voilà, le tube de l'été. Hein.
Le tube de l'été, mais donc plus remboursé parce que pas efficace, on est d'accord.
Ben, c'est effectivement la théorie de ces gens-là, effectivement. C'est leur credo, enfin c'est leur mais c'est purement idéologique, hein. L'homéopathie, on gêne, on fait pas comme tout le monde, donc on n'est pas politiquement correct. Les millions de gens qui se soignent par homéopathie, et ben du coup ils ne prennent pas de médicaments allopathiques l'industrie pharmaceutique en pâtit sur le plan financier, ça c'est évident.
Et on est dans une période d'économie, hein, docteur Jean Rothman. Est-ce que l'homéopathie ça coûte cher au budget finalement de...
Ah oui, ça coûte très très cher, 125 millions d'euros à l'année. Le déficit, je parle pas du budget, le déficit pour l'année 2020 est de 40 milliards d'euros, et selon certaines sources, c'est même 50 milliards d'euros. Donc, ce que coûte l'homéopathie, c'est 125 millions d'euros. Donc, ça coûte vraiment rien. C'est 0,5% du budget de la Sécu. Mmh.
Bon. Donc, l'argument qui consiste à dire, bon, on dérembourse parce que c'est pour faire des économies, c'est un argument que vous n'acceptez pas?
C'est complètement fallacieux. C'est vraiment, c'est absolument pas, c'est scandaleux, quoi. D'autant plus que Les gens s'imaginent que les homéopathes, on soigne des gens, des bobos parisiens
qui font du vélib.
Voilà, qui ont tous des comptes en banque bien fournis. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Moi, je suis médecin en Seine-Saint-Denis. Bon, je suis au Raincy. Le Raincy, toute proportion gardée, c'est un peu le Neuilly de la Seine-Saint-Denis. Mais moi, je reçois des gens qui viennent de tout le département, qui viennent de Clichy-sous-Bois, qui viennent de Montfermeil, qui viennent de banlieues qui sont vraiment pas favorisées du tout. Aulnay, Tremblay, bon, bon, etc. Et je peux vous dire que j'ai des gens qui me demandent de remettre des chèques de 30 ou de 50 euros en fin de mois. J'ai des gens qui sont qui ont la CMU, c'est-à-dire la couverture mutuelle universelle. Et donc le jour il va falloir qu'ils payent les granules d'homéopathie, ils ont 2, 3, 4, 5 enfants, mais ça va être un trou dans le budget, ça va être un sacrifice, il y en a qui ne pourront pas suivre. Il y a des gens qui me disent, mais c'est scandaleux, j'ai cotisé toute ma vie, je cotise, et pourquoi je suis discriminé comme ça, pourquoi je suis pas remboursé.
Quelle explication vous donnez au déchaînement de haine contre l'homéopathie? Ça ne date pas d'hier, hein, ça a toujours été. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange?
On fait pas comme tout le monde, on n'est pas... Il y a encore des gens, enfin la plupart des gens nous disent, mais ça ne peut pas fonctionner uniquement parce que on a des dilutions infinitésimales. Et on leur a appris à l'école, effectivement, à la fac de médecine, que en dessous de ce seuil minimum, on est à un stade infraclinique et qui est inopérant. Et on s'aperçoit que c'est absolument faux et archi faux. Et le problème, c'est que les gens qui critiquent l'homéopathie n'ont jamais expérimenté eux-mêmes, n'ont jamais étudié et prescrit le moindre granule. Si encore des gens avaient fait des études et m'avaient dit, voilà, j'ai prescrit, votre truc, ça marche pas. Bon, ok, j'aurais admis les critiques. Mais là, je peux pas admettre des critiques de gens qui sont des ignorants et qui ont le pouvoir de décider pour des millions de gens qui se soignent et qui n'auront plus la liberté de se soigner comme bon leur semble, pour leur santé. Les gens ont quand même le droit de choisir pour leur santé. C'est le seul luxe qu'ils peuvent avoir ici-bas. Ils ont quand même la possibilité de choisir la façon dont ils ont envie de se faire soigner. Et y a des gens qui ne l'auront plus, parce qu'ils seront pénalisés financièrement. Et moi, j'appelle ça, c'est un acte qui est dictatorial.
Alors, il y a le fameux effet placebo. Alors là, on le convoque,
oui.
On le convoque dans l'homéopathie, en disant que finalement, ça ne fonctionne pas, c'est l'effet placebo.
Alors, l'effet placebo existe pour toute prescription. Bon. C'est un transfert que le soigné fait sur le soignant.
Et expliquez pour tout le monde ce que c'est.
C'est-à-dire que le corps va sécréter des substances qu'on appelle des endorphines, qui fait que le produit devient actif. Bon.
Pourquoi? Parce qu'il a confiance en son médecin?
Oui, bien sûr. Alors, nous, en tant qu'homéopathes, il est clair que, vu le temps qu'on passe pour une consultation, pourquoi on passe beaucoup de temps? Parce qu'on a besoin de connaître tous les symptômes, tous les antécédents familiaux, personnels, le terrain, le psychisme est vraiment prépondérant. Donc il faut qu'on parle à bâton rompu. Donc obligatoirement, les gens se sentent beaucoup plus en confiance, se sentent écoutés. Et s'ils sont écoutés, effectivement, je pense qu'il y a un effet placebo qui est un accélérateur.
Vous prenez un exemple, vous démontez cet effet placebo, hein, dans votre livre, vous prenez un exemple d'expérience, en tout cas, ou de façon de soigner un malade qui prouve que l'effet placebo n'existe pas.
Oui, bien sûr, parce que je veux bien que l'effet placebo soit un accélérateur, mais avant d'accélérer, il faut qu'on mette correctement le moteur en route. Et plusieurs fois, quand je me trompe de remède, bizarrement, l'effet placebo, il marche pas. Ça arrive que je me trompe, hein. On n'est pas infaillible. Pourquoi je me trompe? Parce que c'est complexe, un interrogatoire homéopathique. Et les gens ne donnent pas toujours d'emblée les bonnes réponses. Ils reviennent à la deuxième consultation ou la troisième. Ah, je vous ai dit ça la première fois, mais en fait non. Après, j'ai réfléchi. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Ou peut-être un jour, j'avais pas les yeux en face des trous et j'ai pas donné le bon remède. Et quand je donne pas le bon remède, et ben les gens me disent, votre truc ça marche pas. C'est curieux, hein. Ben là, l'effet placebo ne fonctionne pas.
Le docteur Jean Hautemann est notre invité jusqu'à 10h. Votre livre s'appelle Docteur contre la médecine dictatoriale. Donc vous commencez à parler plaidoyer pour l'homéopathie aux éditions Impact.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on a le coup de gueule du docteur Jean Hautemann qui est avec nous ce matin, médecin généraliste et homéopathe qui publie contre la médecine dictatoriale, plaidoyer pour l'homéopathie chez Impact Éditions. Vous l'avez envoyé aux instances compétentes, dirigeantes, ministres.
J'ai envoyé mon ouvrage effectivement à l'Élysée, aux deux Macron.
Ah oui, vous avez, carrément, vous n'avez pas lésiné à la dépense.
Jean Castex, Olivier Véran, j'ai eu des retours. Jean Castex, ou tout au moins son chef de cabinet, alors je vais dire correct. Voilà, une lettre me disant, bon, j'ai bien reçu votre ouvrage, il est fort intéressant, bon, il m'a joué un peu de violon, mais bien sûr, j'aurai pas la possibilité de vous recevoir. Et il refile le bébé au ministre de tutelle, qui est Olivier Véran, lequel, bien sûr, avait reçu le livre. Et j'ai reçu une réponse d'Olivier Véran. Je vous la montre, là, trois lignes.
Ah oui.
Trois lignes.
Bah, attendez, il a autre chose à faire en ce moment aussi, docteur.
J'ai bien reçu votre ouvrage intitulé « Contre la médecine dictatoriale », première ligne. Deuxième ligne, je vous remercie pour votre démarche. Troisième ligne, je vous prie d'agréer, docteur, etc.
C'est pas trop de violon, là, pour le coup?
Ah non, ou alors c'est un violon très méprisant, et c'est signé de sa main, Olivier Véran. Je trouve ça absolument inadmissible, et je n'en resterai pas là. Voilà.
Et c'est-à-dire?
C'est-à-dire que je vous en parle. J'ai écrit au Canard Enchaîné. J'ai l'intention de transmettre ça à Mediapart, etc. Je trouve inadmissible qu'un ministre de la République fasse une réponse aussi méprisante à un médecin généraliste qui effectivement n'est pas de l'obédience principale, quoi.
Bien, nous avons été rejoints par Nadia Elbouga, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue clinicienne, en quoi les sages-femmes, Nadia Elbouga, sont-elles bien placées pour parler d'homéopathie?
Alors oui, effectivement, il y a sur le terrain beaucoup de sages-femmes qui utilisent l'homéopathie. Beaucoup d'entre elles sont formées. D'ailleurs, lorsque le DU d'homéopathie était encore d'actualité, il y avait une grande majorité de sages-femmes d'ailleurs qui s'y inscrivaient chaque année. Enfin bref, nous sommes effectivement bien placés pour observer que l'homéopathie fonctionne et que ce n'est pas du jus de sirop ou je ne sais quoi d'autre, enfin toutes les appellations qu'on peut trouver à droite et à gauche. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque une femme donc tombe enceinte, tout le monde sait que on ne prend pas n'importe quoi comme traitement allopathique. Donc c'est-à-dire la chimie que l'on connaît conventionnelle, traditionnelle. On fait attention pourquoi? Parce que ces traitements-là sont tératogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent interférer sur le développement de l'embryon et du fœtus. Donc on est très limité au niveau des prescriptions. Et donc en obstétrique, l'homéopathie a été vraiment une grande découverte. Et on voit, moi je le vois concrètement, cliniquement, je vois les effets de l'homéopathie sur les femmes enceintes et sur les nourrissons. Ensuite, vous parliez tout à l'heure d'études. Il me semble qu'en 1986, il y a une étude en double aveugle qui a été faite chez des femmes en travail, donc en salle de naissance. Et il a été constaté, avec l'utilisation donc de quatre substances homéopathiques, qu'il y avait cinq fois moins de dystocie, c'est-à-dire de dysfonctionnement au niveau de la dilatation du col chez les femmes qui avaient pris de l'homéopathie. Donc, je veux bien l'effet placebo, je veux bien qu'on soit hyper rassurantes, les sages-femmes. Il y a quand même, je pense, l'effet homéopathique aussi qui agit là-dessus. Autre chose aussi, et là, ça va être un sacré coup de gueule. Pendant des années, on a utilisé donc un inhibiteur calcique que vous devez connaître, bon, l'adalate pour le citer, qui est un traitement à la base qui est prescrit pour les angines de poitrine, enfin voilà, qui est utilisé en cardiologie à la base. Hein. Il n'avait pas l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché pour l'arrêt des contractions. Nous, on l'utilisait dans cet objectif-là parce que on s'est rendu compte qu'effectivement, des femmes qui en prenaient, ça stoppait les contractions, donc ça avait un effet tocolytique. Pendant des années, en milieu hospitalier, c'est plus le cas actuellement, mais on l'a utilisé alors qu'il n'avait pas l'autorisation de mise sur le marché pour cette fonction-là. Pour cette utilité-là.
Pour cette indication.
Pour cette indication, merci, voilà. Et ça n'a dérangé personne. On a tout simplement constaté les effets bénéfiques, parce qu'effectivement, c'est indéniable, ça stoppait les contractions. Hein, les femmes qui arrivaient avec une menace d'accouchement prématuré, on voyait bien les effets derrière et les contractions qui s'estompaient. Néanmoins, il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour ça. Pourquoi, je me pose la question, et là effectivement on peut interpeller notre ministre de la Santé, pourquoi est-ce que des traitements allopathiques qui n'ont pas une autorisation de mise sur le marché sont autorisés et on les utilise en connaissance de cause, nous les soignants sur le terrain, et pourquoi l'homéopathie, quand on vous apporte des preuves, enfin où on écoute les cliniciens et les cliniciennes, ou alors c'est la pharmaceutique qui a tous les pouvoirs, et dans ce cas-là qu'on nous forme plus à notre clinique et à l'observation. Voilà.
Tout à fait, ben bravo. Je parle dans mon livre d'un médicament allopathique qui est extrêmement efficace.
Il y en a un. Je vais parler dedans.
J'en parle bien. Oui. Ça s'appelle le Trizénox. Ce Trizénox, c'est du trioxyde d'arsenic qui n'est rien de plus que notre remède homéopathique Arsenicum Album. La dilution qu'ils utilisent doit être proche de la 4CH. À quoi sert ce médicament? Ça soigne pas des rhinopharyngites ou des angines ou des choses bénignes. Ça soigne une leucémie qui est extrêmement grave, qui s'appelle la leucémie promyélocytaire aiguë et qui tue des jeunes entre 20 et 30 ans. Et ce médicament, effectivement, est très efficace. Il faut des perfusions pendant 50 ou 60 jours. Et les gens guérissent. Donc, ces gens font de l'homéopathie sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain faisait la prose sans le savoir. C'est curieux quand même quand un médicament homéopathique est dissimulé dans un produit allopathique, tout d'un coup il devient très très efficace alors que si on le donne en granule, ça ne fonctionne plus. On parlait de l'effet placebo tout à l'heure. Bon, on soigne énormément d'animaux par homéopathie. Il y a une sommité mondiale qui s'appelle Madame Jacqueline Pecker, qui a écrit des ouvrages majeurs sur l'homéopathie vétérinaire. Alors bien sûr qu'ils soignent des animaux d'élevage, des chats, des chiens, mais qu'ils soignent énormément d'animaux. Elles soignent des domestiques, mais elles soignent des animaux d'élevage, des vaches. Les moutons, des chèvres, des volailles, elles soignent énormément de chevaux, et des chevaux qui sont des sportifs de haut niveau, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes musculaires, articulaires, et qui ont le trac aussi. Et on soigne quand un cheval doit faire une course et a le trac, soit il est agité avant la course, soit il est complètement paralysé, eh bien le remède va complètement être différent selon le comportement du cheval. Elle a même soigné des animaux du zoo de Vincennes. Elle a soigné des lions, et même même des crocodiles. Alors je sais pas si elle leur a dit de laisser les granules fondre sous la langue, j'en sais rien. Ça m'étonnerait.
Je sais pas combien il faut de tubes pour un crocodile.
Mais c'est bon, alors qu'on vienne pas me parler de l'effet placebo chez les animaux du zoo ou chez les vaches. Hein.
Mais est-ce que la défiance vient du fait qu'on n'arrive pas à expliquer précisément le mode et le mécanisme d'action de l'homéopathie ?
C'est vrai, on l'a.
Comment tout... ça marche, voyez ?
Mais on ne sait
c'est,
pas.
C'est cette question. Alors si vous dites on ne sait pas, voyez les.
Oui, je reconnais effectivement, il y a un maillon du raisonnement. Qui
comment
manque.
Ça fonctionne.
Mais non, mais comme comme je dis dans mon bouquin, l'aspirine pendant 70 ans a été prescrite, on savait pas comment ça fonctionnait, on voyait que ça fonctionnait, donc on l'a prescrite. Mais ça gênait personne de prescrire de l'aspirine alors qu'on savait pas le principe d'action de l'aspirine. Non, effectivement, on le découvrira dans X années ou dizaines ou je sais pas dans un siècle ou deux. Mais pour l'instant, il est clair que le principe actif de l'homéopathie dans le corps humain, on ne sait pas comment ça fonctionne.
Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, bon tout n'est pas miraculeux dans l'homéopathie.
Bien sûr.
C'est pas ce que vous dites.
Oui.
Vous n'êtes pas un médecin qui est contre l'allopathie non plus.
Bien sûr que non.
Vous êtes pour que tous les modes cohabitent.
Ah ben, tout à fait. Tout à fait. Quand j'ai un patient en face de moi et qui, avec ses symptômes, ses maladies, la question que je me pose, c'est quelle est la meilleure thérapie pour qu'il aille mieux, qu'il revienne me revoir dans X temps, un mois, deux mois, trois mois, selon le cas. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne me revoir en disant « je vais mieux ». Donc, je choisis la meilleure thérapie pour que ce patient aille mieux. Si ça doit être de l'allopathie, c'est de l'allopathie. Il y a des tas de gens qui viennent avec des traitements allopathiques pour leur tension, leur diabète, etc. Et bien évident que je vais pas leur dire arrêtez tout ça et je vais vous mettre un traitement homéopathique à la place. Là ce serait
c'est totalement... pas votre démarche. C'est
ah ben non, ce serait ouais. Même tout à fait criminel, oui. Quoi.
Hein. Nadia.
En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent et d'abord nos confrères et consoeurs du milieu qui sont complètement opposé, c'est que c'est un élargissement de la palette dans nos exercices. C'est pas du tout se fermer au reste et se centrer que sur l'homéopathie. Non, c'est vraiment élargir sa palette de propositions. Et moi personnellement, et d'ailleurs je le vois même auprès de mes patientes, on est quand même beaucoup plus rassuré par une personne qui va élargir sa palette et qui ne sera pas fermée sur une seule voie qu'une personne qui ne jure que par une seule pratique. Prenez vos jambes à votre cou et puis allez voir quelqu'un d'autre, parce que là en fait ce que vous dites tout simplement c'est ne nous limitons pas, il y a des possibilités et moi dans ces possibilités je suis formée à une technique qui marche.
Alors vous avez commencé l'écriture de votre livre avant le début de la pandémie, oui. Il y a un an, depuis nous fêtons le premier anniversaire de la pandémie Covid, hein. Vous avez adressé par mail, dites-vous, un traitement préventif contre les infections virales et grippales à tous ceux dont vous aviez l'adresse mail. Combien de patients Covid aujourd'hui vous avez soigné ? Parce que franchement, on voit beaucoup de traitements qui apparaissent hein, sur la toile par les médecines naturelles. Certains ont même été interdits et on n'a pas laissé la parole à ceux qui proposaient une autre alternative pour soigner du Covid.
Alors, sur la période mars-avril 2020...
C'est celle que vous donnez dans votre livre.
Voilà, ouais. J'ai eu 28 cas. Bon, ça fait quand même pas mal. Sur ces 28 cas, je n'ai eu aucune hospitalisation, aucun décès. Bon, il y a eu énormément de choses bénignes, hein. J'ai pas eu que des gens qui ont été extrêmement atteints. Mais j'avoue que j'ai eu au moins quatre patients qui m'ont donné des sueurs froides.
Mais là, c'est mars-avril. Là, maintenant, on est quand même presque un an plus tard. Donc, vous avez dû voir d'autres patients.
Oui, alors...
Quelle tranche d'âge ?
Moi, personnellement, je n'ai pas eu de cas très très graves. C'est avec la deuxième vague là, de octobre-novembre. Oui. Et actuellement, j'en ai vraiment très très peu. Alors je dis pas qu'il se passe rien, hein, j'écoute les infos et comme tout le monde, mais moi personnellement, et
dans votre patientèle,
j'ose espérer, grâce à la prévention que je donne, et ben j'ai très peu de symptômes qui évoluent de façon grave.
Et donc c'est une prévention qui concerne quoi? Donc qu'est-ce que vous prévenez dans ces cas-là?
Eh ben j'associe l'homéopathie, les oligo-éléments, la phytothérapie, vitamine D, etc. Et vitamine C, le zinc, et je vous assure que ça renforce énormément le terrain, la constitution. Et
Mais est-ce que vous avez reçu un avis du Conseil de l'Ordre qui vous disait de pas le diffuser, votre ordonnance préventive,
non,
en fait, votre...
Non. J'ai, pour l'instant, j'ai rien su, non. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant...
On vous a rien dit.
On m'a rien dit, non.
Ouais. Bah, ça ne tiendrait pas la route, parce que c'est préventif. Donc, en quoi ça ne met pas en danger? Vous n'avez pas des gens qui sont atteints et pour qui vous préconiseriez un traitement miracle?
Ah bah,
là, c'est de la prévention.
Bah, de toute façon,
Covid, vous auriez pu très bien, en période d'épidémie de grippe, finalement, mais proposer ce traitement.
Mais c'est la même prévention que vous proposez, d'ailleurs. Hein,
oui, c'est la même prévention que pour la grippe saisonnière. Hein. C'est le germe n'est rien, le terrain est tout. Voilà, ça c'est vraiment, faut que les gens aient ça à l'esprit.
J'ai entendu.
On le répète souvent dans cette émission, mais c'est, oui. Mais c'est la base.
Voilà, exactement. Et quand vous avez deux personnes l'un à côté de l'autre qui sont atteintes du même virus, Monsieur X va être totalement asymptomatique et Monsieur Y peut aller jusqu'à décéder. Bon, le virus n'est pas plus violent chez l'un que chez l'autre, donc c'est le terrain qui fait la différence, c'est la constitution qui fait la différence.
Voilà, docteur Jean Rottmann, je rappelle le titre de votre livre, Contre la médecine dictatoriale, plaidoyer pour l'homéopathie chez Impact Édition. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Nadia, on vous retrouvera demain entre 9h et 10h. On parlera de l'infidélité. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très belle journée santé sur notre chaîne.